Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h en temps universel, il est 13h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
RFI Midi, 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos invités pour faire le tour de l'actualité dans le monde. À la une aujourd'hui, 2 mois de blocus humanitaire à Gaza, 2 mois qu'Israël empêche les camions de nourriture, d'eau, de médicaments d'entrer dans un territoire déjà dans une situation catastrophique pour les habitants.
Ce qui est primordial aujourd'hui, c'est la réouverture des points de passage. Au moins qu'ils laissent passer de la farine et des légumes. Mes enfants sont chétifs, avec des corps tout frêles. Parfois ma fille s'écroule tellement elle est faible. On est épuisé, je n'arrive même plus à porter un bidon d'eau. Ça fait quasiment 2 ans maintenant qu'on souffre de malnutrition.
Un reportage à écouter dans 1 heure et juste après, nous serons en ligne avec l'ancien président de Médecins Sans Frontières, Ronnie Broman, pour parler de Gaza, de l'effondrement de l'aide humanitaire. Au sommaire également, la mobilisation européenne pour muscler la défense dans le contexte de guerre en Ukraine. En Pologne, cela passe par la multiplication des formations destinées aux civils.
Le contexte international est sensible, c'est vrai. On ne sait pas ce qui peut arriver dans 1 an ou 2. Et savoir comment se comporter dans certaines situations, que faire, comment s'abriter, c'est très important. Bien entendu, on n'apprend pas tout. Mais le sentiment de savoir comment faire face à certaines situations de crise compte beaucoup pour moi.
Comme cette femme, les Polonais sont nombreux à s'inscrire pour suivre une formation d'une journée aux côtés des militaires. Vous l'entendrez dans une demi-heure.
RFI Midi.
L'actualité africaine à midi et demi, temps universel. Nous reviendrons notamment sur la réunion des partis politiques hier au Mali, après la signature du décret sur l'abrogation de la charte des partis. Et ce, alors que la concertation citoyenne organisée par le pouvoir a recommandé la dissolution de tous les mouvements politiques. Et puis la colère du Parti Socialiste en France, après des violences contre leurs militants hier, lors du défilé du 1er mai à Paris, et notamment contre un député qui avait déjà été pris à partie. Le PS dénonce un antisémitisme latent derrière ces violences et une brutalisation du climat politique. Analyse dans quelques minutes avec le professeur de sciences politiques Xavier Crétier. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et d'abord le journal. Bonjour Charlotte de Rouen.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
L'aide humanitaire n'entre plus depuis 2 mois donc à Gaza.
2 mois jour pour jour que toutes les livraisons d'aide sont bloquées par Israël. Selon le comité international de la Croix-Rouge, la situation sur place est au bord de l'effondrement. Lila Olkinouora, bonjour. C'est la plus longue période de blocage depuis le début de la guerre.
Médicaments, nourriture, carburant, depuis le 2 mars 2025, plus rien ne rentre à Gaza. Les autorités israéliennes ont imposé ce blocus pour forcer, disent-elles, le Hamas à libérer les derniers otages du 7 octobre. Alors, quelles sont les conséquences de cette fermeture qui se prolonge? Le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, a annoncé avoir épuisé tous ses stocks de nourriture. Les cuisines collectives de la Croix-Rouge, qui fournissent aux Gazaouis ce qui est souvent leur unique repas quotidien, ne pourront pas être maintenues et sans réapprovisionnement en médicaments et en carburant qui alimentent les groupes électrogènes, les hôpitaux seront bientôt incapables de prodiguer des soins vitaux alors que les structures de santé sont déjà affaiblies par les bombardements. Aujourd'hui, les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza sont à bout de force. Dans un communiqué, le comité international de la Croix-Rouge appelle à une action humanitaire urgente, faute de quoi, selon l'organisation, Gaza risque de tomber dans un chaos dont plus rien ne pourra la sortir.
Et c'est dans ce contexte qu'un navire humanitaire appartenant à la flottille pour la paix a été pris pour cible cette nuit au large de Malte. Selon l'organisation, le bateau devait prendre la mer pour Gaza ce matin pour contester justement ce blocus humanitaire israélien lorsqu'il a été attaqué par des drones de l'armée israélienne. L'armée israélienne qui a aussi frappé ce matin les abords du palais présidentiel syrien à Damas. Une frappe très symbolique qui intervient dans un contexte tendu alors que l'un des chefs religieux de la communauté druze en Syrie a accusé le nouveau pouvoir du président Ahmed al-Shara de génocide. Pierre-Olivier, pourquoi Israël défend les Druzes?
Alors il y a 3 raisons principales. D'abord, la communauté druze est présente en Israël, une communauté bien intégrée avec des jeunes souvent enrôlés dans l'armée et qui se sont battus pour Israël, notamment lors de la guerre contre le Hezbollah. L'État israélien répond donc à une demande de ses propres citoyens druzes qui ont de la sollicitude pour leurs frères de Syrie et souhaitent qu'on leur vienne en aide. Deuxièmement, Il y a un aspect stratégique dans cette intervention d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a toujours observé avec méfiance l'arrivée au pouvoir d'Armel al-Sharaa, qu'il considère comme une menace islamiste à ses portes. Pour rappel, Armel al-Sharaa était, avant la chute de Bachar al-Assad, le chef du groupe Hayat Tahrir al-Sham, dont de nombreux combattants étaient des djihadistes. Épauler les druzes syriens est donc pour Israël un moyen de renforcer sa présence dans le sud de la Syrie pour prévenir toute intrusion potentielle sur son territoire. Enfin, c'est aussi un coup plus politique que joue l'État hébreu, divisé pour mieux régner, car en soutenant la communauté druze syrienne, Israël cherche aussi à affaiblir le pouvoir de Damas et in fine à déstabiliser Armel al-Sharaa.
Pierre Olivier, les pressions économiques menacent la liberté de la presse dans le monde. Fermeture massive de médias, domination des GAFA, mainmise des milliardaires. L'ONG Reporters sans frontières pointe notamment une dégradation inquiétante aux États-Unis sous le mandat de Donald Trump, le président américain qui a d'ailleurs signé hier un décret visant à réduire le financement de deux médias publics, la radio NPR et la chaîne de télévision PBS, qui l'accuse de partialité. D'après le classement annuel de l'organisation, les journalistes sont confrontés à des situations problématiques, difficiles, voire très graves, dans les trois quarts des 180 pays évalués.
Au Royaume-Uni, les élections locales font office de test pour les deux principaux partis.
Certains Britanniques ont voté hier pour 1600 sièges dans 23 conseils municipaux et pour donc 6 nouveaux maires. Ces dernières semaines, les sondages ont indiqué que ce scrutin pourrait marquer la fin d'un bipartisme qui a dominé la vie politique britannique pendant un siècle. Et si ce test clé de la politique est mené par les travaillistes depuis leur retour à Downing Street en juillet dernier, les sondages ont aussi annoncé un raz-de-marée du parti anti-immigration Réforme UK. Alors la tendance est-elle confirmée ? Élément de réponse avec Sarah Menaï.
Sur le papier, c'est la plus petite élection depuis les années 70 au Royaume-Uni. Mais dans les faits, le monde politique britannique retient son souffle. La principale question étant, Reform UK, le parti anti-immigration, a-t-il pu transformer les sondages en succès ? Pour l'instant, la réponse est oui. Le parti de Nigel Farage a remporté plus de la moitié des 100 premiers sièges de conseillers municipaux déclarés. Mais les votes sont serrés pour l'instant, surtout entre la majorité travailliste et le parti nationaliste. À Runcorn and Helsby, par exemple, dans le comté rural du Cheshire, au nord-ouest de l'Angleterre, c'est un siège de député au Parlement qui était en jeu. Il a été remporté par Reform UK, victoire historique pour le parti de Farage, mais victoire aussi la plus serrée de l'histoire de cette circonscription. 6 petites voix seulement à l'arrivée ont séparé la candidate Reform de son adversaire Labour. La fragmentation du paysage politique britannique se confirme. Plus de résultats dans le courant de la journée. Sarah Menei, Londres, RFI.
Et le Premier ministre britannique a qualifié de décevante la défaite de son parti lors de cette législative partielle qu'évoquait notre correspondante en Allemagne. Le parti AfD classé extrémiste de droite par le renseignement intérieur, une mesure qui doit permettre notamment un placement sous surveillance intensive de ce parti arrivé deuxième aux dernières élections législatives. Concrètement, les renseignements pourront désormais surveiller jusqu'aux communications privées des membres de l'AFD. Le parti, lui, dénonce, je cite, un coup dur pour la démocratie. En Europe, TikTok condamné à payer 530 millions d'euros d'amende pour son incapacité à protéger les données personnelles de ses utilisateurs européens vis-à-vis de Pékin. La plateforme a reconnu avoir hébergé en Chine des données européennes. Le puissant réseau social propriété du groupe chinois ByteDance est depuis des années dans le viseur des gouvernements occidentaux qui redoutent son lien avec les autorités chinoises et un possible usage des données de ses utilisateurs à des fins d'espionnage ou de propagande. De son côté, TikTok a annoncé son intention de faire appel. Dans la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis, la Chine dit évaluer la proposition de négociation émanant de Washington sur les droits de douane exorbitants appliqués par les deux pays. Washington impose une surtaxe de 145% sur de nombreux produits chinois. Depuis le mois d'avril, Pékin, de son côté, a réagi en dégainant des droits de douane de 125% sur les marchandises importées
aux États-Unis.
En France, la justice confirme la piste des narcotrafiquants dans la série d'attaques qui ont touché des prisons ces 20 derniers jours.
Des attaques exécutées par un groupe jusque-là inconnu, baptisé DDPF pour défense des prisonniers français. Le parquet national antiterroriste qui s'était saisi de plusieurs de ces attaques passe la main au profit de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Bonjour Laura Martel.
Bonjour.
21 personnes doivent être présentées aujourd'hui devant un juge d'instruction en vue de leur mise en examen.
Oui, l'enquête a vite progressé dans cette affaire qui porte sur 15 actes de dégradation et d'action volontaire contre des prisons et contre les domiciles et véhicules d'agents pénitentiaires commis un peu partout sur le territoire. Des actions coordonnées qui ne procèdent pas d'une entreprise terroriste, souligne donc le parquet, mais bien de la très grande criminalité organisée. Le mode opératoire correspond d'ailleurs à celui qui est habituellement employé par les organisations criminelles, pointe-t-il, avec un mode d'ordre d'action donné par l'institution instigateur du mouvement DDPF sur une chaîne Telegram, puis diverses offres d'action relayées sur les réseaux sociaux pour recruter des exécutants qui passent à l'acte contre une rémunération significative. Parmi les 21 personnes qui doivent être présentées devant un juge d'instruction spécialisé, figure d'ailleurs un homme soupçonné d'être le créateur du premier compte Telegram intitulé DDPF et qui aurait rédigé le texte de revendication contre les conditions carcérales. Cet individu, actuellement détenu, est déjà mis en examen pour des faits liés au narco-banditisme marseillais et notamment proche du gang DZ Mafia. Trois autres mises en cause, également détenues et inscrites dans la grande criminalité, auraient joué eux le rôle de relais et de donneurs d'ordre, selon les enquêteurs, en désignant des cibles manifestement choisies parmi les agents et établissements pénitentiaires de leur connaissance. Le placement en détention provisoire de l'ensemble de ces mises en cause a été requis.
Une précision signée Laura Martel. Au Vatican, une cheminée a été installée au sommet de la chapelle Sixtine en vue du conclave qui débutera mercredi. À l'issue de chaque session de vote des cardinaux, des bulletins seront brûlés dans un poêle. La cheminée, visible depuis la place Saint-Pierre, émet alors une fumée noire si aucun pape n'est élu, ou blanche en cas de consensus sur le nom du prochain souverain pontife. Fumée noire ou blanche grâce à l'ajout de produits chimiques pour qu'un cardinal soit élu, il faut qu'il obtienne au moins 89 voix. Ils seront 133 à se réunir, à participer à ce processus qui devrait donc durer plusieurs jours.
Merci Charlotte de Rouen. À tout à l'heure. L'actualité en France durant les 20 prochaines minutes. Actualité marquée par des violences lors du défilé du 1er mai à Paris hier. Contre un député et des militants socialistes. Véronique Rigolet, vous recevez pour en parler Xavier Crétier, professeur de sciences politiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et co-auteur de l'ouvrage « Violence politique en France de 1986 à nos jours » paru aux éditions Presse de Sciences Po.
Bonjour Xavier Crétier.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RFI au lendemain d'un 1er mai qui s'est globalement bien déroulé, mais qui a été marqué, eh bien, par des violences contre des élus socialistes insultés, agressés lors de la manifestation parisienne pour cette fête du travail. Et à nouveau particulièrement ciblé, eh bien, le député Jérôme Guedj, qui avait déjà été invectivé lors du rassemblement contre l'islamophobie. Le PS porte plainte, pointe du doigt les Black Blocs, les militants de l'extrême gauche, dont il dénonce également l'antisémitisme. Des violences lamentables, inacceptables, dénonce de son côté le ministre de l'Intérieur Retailleau. Xavier Crétier, que s'est-il passé hier lors de cette fête du travail? Assiste-t-on à une forme de brutalisation du débat public, comme le dénonce le Parti Socialiste aujourd'hui?
Ah ben, je pense que oui, inévitablement, on assiste à une brutalisation du débat public qui ne commence pas là avec ce qui s'est passé le 1er mai, qui était déjà en germe bien avant. Cette brutalisation ici, elle s'explique, à mon sens, par deux points, je dirais même trois. D'abord, la figure de Jérôme Guedj a été pris à partie probablement en lien avec ses liens supposés avec, sa position supposée dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Il y a aussi une violence à l'encontre de la gauche socialiste qui est considérée par une partie de l'extrême gauche ou du l'ultra-gauche comme étant social traître, comme relevant d'un parti réformiste et absolument pas dans une logique révolutionnaire. Et puis enfin, je pense que cette brutalisation, elle tient aussi à une perception, à une conception de la politique qui a été, qui est tout à fait perceptible dans l'hémicycle sous l'action des députés LFI, c'est-à-dire une politique qu'on pourrait qualifier d'agonistique, c'est-à-dire une politique qui met en avant, qui valorise le conflit comme étant une nécessité pour construire des opinions idéologiques tranchées en opposition avec la démocratie libérale qui serait trop molle, trop dans le compromis, trop dans le consensus.
Clairement, voilà. Clairement, vous dites, Jérôme Guedj s'est fait agresser parce qu'il est socialiste et juif, comme le pense Nicolas Mayer-Rossignol, le maire socialiste de Rouen.
Non, je ne sais pas si c'est parce qu'il est de confession juive. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, si Jérôme Guedj revendique sa confession et est pratiquant, etc. Je pense qu'il a été agressé parce qu'il est socialiste, ça c'est certain, et probablement parce qu'on a voulu lire ses positions dans le cadre du conflit israélo-palestinien comme étant des positions de soutien à Israël, ce qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est la lecture que ça donne. Le fait qu'il est condamné très fermement, comme d'ailleurs pas mal de socialistes, les attentats du 7 octobre, là où d'autres formations, et en particulier l'ultra-gauche, étaient peut-être beaucoup plus réticentes à qualifier de terroristes ces opérations.
Comment expliquer l'embarras qu'on a vu hier, la patronne des écolos, Marine Tondelier, qui a mis en cause le comportement, a-t-elle dit, un peu provocateur de Jérôme Guedj en venant aux manifestations avant eh bien, qu'elle ne s'excuse ce matin et de reconnaître qu'il y a bien un antisémitisme d'extrême-gauche.
Encore une fois, je sais pas dans quelle mesure ça relève de l'antisémitisme, et je pense qu'un certain nombre de gens qui sont au sein des Black Blocs, les Black Blocs, c'est pas une structure organisée, hein, c'est une méthode d'action, c'est une méthode d'occupation de la rue violente. Je suis pas sûr que tous les gens qui sont dans les Black Blocs soient des antisémites forcenés. Par contre, ils ont une lecture qui est une lecture de contestation systématique de la domination, que ça soit une domination capitaliste, une domination d'État. Et là, en l'occurrence, la lecture du conflit israélo-palestinien, c'est une lecture qui se fait avec cette boussole de la domination.
Il y a une importation du conflit israélo-palestinien dans le débat public français, et quelle serait, dans ce cadre, la responsabilité de LFI, des Insoumis, que dénonce d'ailleurs le PS aujourd'hui?
Il y a une importation du conflit, mais elle n'est pas nouvelle. Hein. Le conflit israélo-palestinien, ça fait longtemps qu'il concerne directement la France. Il a pris d'ailleurs des colorations très très différentes en France. Là, actuellement, oui, on a une formation politique dirigée par Jean-Luc Mélenchon qui vise à obtenir très clairement le vote des catégories populaires issues de l'immigration en France et qui donc se positionne très très fortement sur un créneau anti-israélien, ce qui peut par ailleurs très bien se comprendre vu l'actuelle politique du gouvernement israélien, mais avec un créneau sans mesure, je dirais, très pro-palestinien, y compris parfois en n'hésitant pas à se montrer très complaisant par rapport au Hamas. On a vu les hésitations avec lesquelles Mathilde Panot, par exemple, avait été réticente à qualifier le Hamas de mouvement terroriste.
Il y a une responsabilité de la France insoumise.
Mais ça, c'est pas à moi de le dire. Moi, je suis
dans cette fracturation du débat public.
Fracturation du débat public, tout à fait. Il y a une responsabilité de la France insoumise qui, très clairement, mais c'est pas seulement l'idée qui avait été mise en avant d'une bordélisation du champ politique. C'est pas une bordélisation au sens où LFI chercherait à faire le chaos. C'est vraiment penser sous le registre de cette politique agonistique avec l'idée de contester la démocratie libérale par une démocratie qui serait une démocratie conflictuelle, où la violence et le conflit sont recherchés parce qu'elles sont valorisées pour construire des identités politiques polarisées. Et ça, c'est très clairement une option de LFI qui n'est pas du tout celle du RN qui, à côté, évidemment, semble très notabilisé et respectable, hélas.
Et c'est très certainement une menace sur notre démocratie, Xavier Chrétier.
En tout cas, ça peut l'être, clairement.
Il y a urgence aujourd'hui à faire redescendre les tensions, notamment sur ces questions religieuses, ou est-ce qu'il y a toujours la crainte d'une spirale de violence ?
Mais je crois qu'il faut se méfier quand même. Bon, là, il y a eu des échauffourées pendant la manifestation. On n'est pas non plus, il faut voir ce qu'on appelle violence, on n'est pas non plus dans une situation de violence importante, extrême, etc. Vous avez actuellement aucun mouvement politique, que ce soit un mouvement institutionnel ou un mouvement type Black Bloc ou autre, qui défend les deux grandes lignes rouges que sont l'assassinat politique ou que sont le terrorisme aveugle. Hormis les islamistes en France, ça doit faire à peu près 40 ans que vous n'avez pas eu de mouvements qui vont légitimer violente. Donc, derrière le mot violence, il y a des choses qui sont quand même très très différentes et qui peuvent être parfois acceptables.
Quelles conséquences sur le plan politique? Est-ce qu'on assiste à une véritable fracture de la gauche aujourd'hui?
Ah ben, la fracture de la gauche, elle est réelle et elle est très forte. Elle a toujours existé, hein, je dirais, depuis la création du Parti socialiste et de la SFIO. Il y a eu des oppositions entre des mouvements réformistes et des mouvements révolutionnaires. On retrouve d'une certaine façon cette contestation, cette division ici entre Parti socialiste, réformiste, derrière des gens comme Faure ou comme Valot, et puis de l'autre côté une gauche qui flirte avec l'ultra-gauche et qui, elle, se dit révolutionnaire et veut renverser le système. On a une opposition qui est très claire.
Voilà, sur le front politique également, est-ce que le nouveau Front populaire a décidément vécu?
Je ne saurais pas vous le dire. Ouais. Je pense que ça va être compliqué de se pérenniser et en même temps, le Parti socialiste sait que si les insoumis mettent dans toutes les circonscriptions des candidats face aux leurs, ça risque d'être extrêmement compliqué pour le PS. Donc le PS est un petit peu coincé entre une optique de révolte au sein du Front populaire et puis une optique de soumission. Donc ça va être compliqué. Je pense que quelqu'un comme Marie Tondelier a fait son choix. Elle a choisi la soumission.
Merci Xavier Crétier. Bonne journée.
Je vous en prie. Au revoir.
Xavier Crétier, professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, co-auteur de l'ouvrage « Violence politique en France de 1986 à nos jours » paru aux éditions Presse de Sciences Po. Nous vous emmenons maintenant à la rencontre d'opposants algériens installés en France mais traqués par le régime d'Abdelmajid Tebboune. La répression s'étend au-delà des frontières de l'Algérie et elle prend de multiples formes. Deux militants ont raconté à Amélie Beaucourt les menaces et les pressions qu'ils subissent.
Bonsoir à toutes et à tous.
Sur ses réseaux sociaux, l'activiste Chokhi Benzera critique le régime algérien à visage découvert. Mais une fois la caméra éteinte, il vit caché, chaque déplacement est millimétré.
Je fais très attention à sortir principalement en voiture, à ne pas prendre le même chemin, parfois même voilà, être incognito voilà, dans la rue. Je choisis les endroits là où je vais vraiment avec beaucoup de précautions, donc c'est plus une vie normale.
Le mois dernier, il apprend que son nom figure sur une liste de 30 opposants vivant en France sur lesquels Alger se renseigne. Un fonctionnaire, accusé d'espionnage et arrêté, aurait fait sortir leurs informations personnelles des bases de données administratives de l'État français. L'activiste algérien bénéficie du statut de réfugié politique, mais pour lui, ce n'est plus suffisant.
C'est plus une protection, disons, administrative que vraiment une protection pour mon intégrité physique à cause des pratiques du régime algérien, ses agents aussi sur le sol français. Donc maintenant, c'est plus possible de vivre normalement en étant opposant au régime algérien en France.
Même prudence chez Axel Belabassi, opposant lui aussi car il milite pour l'indépendance de la Kabylie, région du nord de l'Algérie.
Bien sûr, on change toujours nos habitudes, on change aussi le lieu de résidence parce que on est tout le temps surveillé, on est tout le temps suivi et on sait de quoi il est capable ce régime.
En juin 2024, alors qu'il vit en France depuis 2012, la police française le convoque et lui apprend qu'un mandat d'arrêt a été déposé contre lui.
J'ai découvert comme quoi j'étais accusé d'être derrière des incendies de la Kabylie de 2021 où il y avait à peu près 500 morts. Et le lynchage de Jamal Ben Smaïl, c'est un Algérien qui a été assassiné, lynché sur le territoire kabyle.
Des motifs fallacieux et absurdes selon lui, qu'il ne prend pas au sérieux, mais qui révèlent la pression juridique qui pèse sur ses épaules.
J'ai été condamné 14 reprises. En tout, il y a 203 années, plus 2 condamnations à mort.
Contrairement à Choky Benzera, la demande d'asile politique d'Axel Belabassi n'a pas encore été acceptée. Il pourrait donc être extradé si la justice française donnait son feu vert. La Cour d'appel de Paris devait rendre sa décision cette semaine, mais a finalement choisi, pour la deuxième fois, de la reporter.
Reportage signé Amélie Beaucourt.
Pourquoi RFI dit ça ?
C'est ce soir sur notre antenne. Pourquoi RFI dit ça avec vous, Juliette Rangeval. Et au sommaire, cette question d'un auditeur qui se demande pourquoi il y a des journaux Afrique sur RFI.
D'abord, il faut dire que ce n'est pas une spécificité de RFI, c'est le cas des grandes radios internationales, de la BBC britannique à Radio Chine internationale par exemple. Et puis, nous avons des journaux dédiés à d'autres régions du monde, par exemple le journal d'Haïti et des Amériques. À RFI, l'antenne Afrique date de 1975, comme nous le rappelle Laurent Corot, l'un des rédacteurs en chef du service.
Dans les années 70, les paysages médiatiques africains étaient pour la plupart des paysages verrouillés par les médias d'État. Et c'est à cette époque, en fait, que sont nées sur le continent les habitudes d'écoute des radios internationales. Il a fallu en fait attendre les années 90 pour que les radios privées se mettent en place, mais souvent locales et fragiles ces radios. Et c'est dans ce contexte aussi que ce lien si particulier s'est noué entre les auditoires africains et une radio comme Radio France Internationale.
Depuis, l'offre de RFI en direction du continent s'est considérablement enrichie. Les programmes Afrique se déclinent en plusieurs langues, sur plusieurs supports, et les médias internationaux comme le nôtre restent utiles à notre époque.
Nous sommes dans un monde qui est complètement baigné d'infox et de manipulation, et donc rétablir la vérité des faits, c'est devenu un véritable enjeu international. La vérité, on pourrait dire que c'est un bien commun finalement, comme l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez, et cette vérité aujourd'hui, elle est polluée. Elle est menacée. Il me semble que l'un des nouveaux visages de notre mission de service public, c'est bien de contribuer à défendre sur les ondes internationales cette vérité des faits qui doit rester la base du dialogue entre les êtres humains.
Laurent Corot dans Pourquoi RFI dit ça. On vient de l'entendre, Juliette, ce travail factuel, il est d'autant plus important aujourd'hui alors que circulent tant de fausses informations.
Manifestement, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, admettre les faits pose un problème. Ce constat, il est au cœur du livre de Michael Lenné, L'ère de la post-vérité, à paraître aux éditions de La Découverte. Notre rapport à la réalité change au rythme des algorithmes.
Il n'y a quasiment pas un désir plus intime que celui de se débarrasser de la réalité. En tout cas, je pense à des degrés divers selon les individus. Évidemment, c'est ça aussi qui fait la complexité de la post-vérité, c'est que les individus sont hétérogènes. Donc, en fait, ce que je démontre dans le livre, c'est que si l'on délimite en tout à chacun trois besoins psychologiques fondamentaux, qui seraient le besoin de vérité, en ce qu'il conditionne le succès dans nos entreprises, dans nos aspirations, le besoin de sens, qu'on peut appeler un besoin de sécurité cognitive, le monde est plus rassurant quand il fait sens, et également le besoin d'affection, qui se décline en amour propre et en attachement au groupe, en fait, il s'avère que les algorithmes s'adressent en priorité aux deux derniers besoins et pas aux besoins de vérité.
Michael Lenné a retrouvé dès 19h40 temps universel dans Pourquoi RFI dit ça. À ce soir, Juliette.
À ce soir. Et si vous vous posez des questions sur notre traitement de l'actualité, je vous rappelle l'adresse pour nous écrire pourquoi@rfi.fr.
Et bien sûr, pour retrouver toutes nos informations, il y a toujours notre application RFI Pure Radio. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un tout petit peu plus d'une minute pour une demi-heure consacrée à l'actualité européenne. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
L'objet.
Somebody just like you, I need somebody just like you. Know my life I've been chasing.
And if you hear this song, then go on bend your back,
Molly.
Go on bend your knees, baby, shake it to the max. For the DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Shake it to the max.
RFI Musique.
Carrefour du Maghreb.
Une histoire de la musique raille.
Juliette Rangeval.
Étendard de la jeunesse algérienne tout au long du XXe siècle, voix d'expression des femmes et des libres penseurs, le raï vibre encore aujourd'hui. Pour s'en rendre compte, visite de l'exposition Yaraï à l'Institut du monde arabe de Tourcoing dans le nord de la France.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.
à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Dans un futur pas si lointain, l'Europe est devenue quasiment inhabitable. L'Islande est le seul pays totalement épargné par les catastrophes et par dizaines de millions, les Européens tentent de le rejoindre. Islander, c'est une BD signée Caril Ferret pour le scénario et Corentin Rouge pour l'illustration.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair,
du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.